Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Bonjour à tous, vous êtes bien sur Aligre FM et vous écoutez Vive le cinéma Perspective, une émission animée par Pierre Charpioz avec à la technique Kumba Falquast. Une fois par mois sur le 93.1 en direct de la rue de Montreuil, nous accueillons un historien, un critique, un ou une programmatrice, programmateur ou un chercheur de cinéma. Et aujourd'hui, nous fêtons un anniversaire de 44-45 ans de Festival international de films de femmes à Créteil, qui donc fêtera sa 45e édition du 24 mars au 2 avril prochain. Élément majeur de l'histoire du féminisme de ces 40 dernières années, on va parler de l'histoire de ce festival, mais aussi de son actualité et de son futur, avec sa fondatrice et directrice, Jackie Buette. Bonjour à vous.
Bonjour.
Alors, on va un peu revenir en arrière, on est en 1979, première édition de ce festival. Quelle est un peu sa jeunesse? Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer
un festival? Alors, c'était une improvisation totale. Ce festival est né d'un désir profond qu'Elisabeth Tréhard, directrice des Gémeaux Asso, et moi-même, qui était chargée du jeune public, avons eu envie de promouvoir. Notre héritage, c'est à la fois les mouvements féministes des années 75 et 80, et puis l'action culturelle, c'est-à-dire transmettre au public les éléments de la modernité dans la culture et dans les arts. Mais il nous manquait les femmes, parce qu'elles étaient très peu représentées, et notamment dans le monde du cinéma. Donc on a décidé de bousculer cette pyramide et d'inverser les rôles et de leur donner toute une place.
Et ressemblait à quoi cette première édition?
Cette première édition ressemblait à un grand festival, comment on pourrait dire, de sacs à dos, de convivialité, de carottes râpées. Enfin, c'était très improvisé. D'ailleurs, je me souviens, il y avait même Denis Lavant, qui à l'époque était jeune étudiant en théâtre, qui nous donnait un coup de main bénévole. Donc, on a beaucoup travaillé avec les bénévoles. Il y avait une volonté d'ouvrir un espace pour les femmes réalisatrices. Et elles étaient finalement en attente que se produise en France un tel accueil, un tel événement.
Oui, ça contribue à cette histoire un peu permanente des femmes réalisatrices, pour reprendre le terme aussi du Festival de Lumière, qui fait qu'on n'arrête pas de découvrir, surtout en ce moment, des femmes réalisatrices. Et on nous a rabâché l'idée qu'il n'y avait pas de femmes qui faisaient des films dans les années 70, 80, etc. Très peu, et on n'arrête pas d'en redécouvrir. C'est aussi l'importance de ce festival, c'était de les faire exister, au-delà de faire un film aussi, d'en parler et en parler partout.
La grande force de ce festival, c'est d'avoir pu rencontrer les réalisatrices de leur vivant. Je pense par exemple à Jeanne Moreau. Vous parlez de lumière. On rend hommage aujourd'hui au film de Jeanne Moreau. Elle en a fait trois films très très beaux, dont un sur une des comédiennes du muet. Ça y est, j'ai perdu son nom.
Sur une actrice, Liliane Guiche.
Voilà, Liliane Guiche. Elle est venue à Créteil. On lui a fait un hommage, un autoportrait, et elle a choisi trois de ses films. Donc, elle est venue les présenter elle-même. Ça, c'est le festival de films de femmes de Créteil aujourd'hui. La même chose pour Agnès Varda, la même chose pour Vera Kitilova, la même chose pour Maj Zetterling, qui est une grande réalisatrice suédoise. Donc, c'est vrai que le festival a démarré au bon moment pour faire vivre ce cinéma en présence des réalisatrices. Delphine Seyrig, par exemple, est venue à Créteil pratiquement chaque année. Et elle a présenté son film qui aujourd'hui est montré en salle avec un grand, grand succès. Chantal Ackerman également.
Oui, vous parliez de Sois belle et tais-toi.
Sois belle et tais-toi.
Qui est un film qui est donc un peu antérieur à la naissance du festival. Non, 81, c'est 80
Sois belle et tais-toi. Oui, il est antérieur.
Non, et c'est milieu des années 70, 75, 76.
76, ouais. Je pense.
C'est ça, mais qui est un film qui s'inscrit aussi.
Il est très précoce. Delphine Seyrig a créé avec Carole Roussopoulos et Johanna Vider, le centre Simone de Beauvoir, qui existe toujours, qui lui aussi fait un travail de sauvegarde des films de toutes ces années et de promotion, puisqu'il fait de la distribution. Donc ce sont des initiatives qui ont été essentielles en France pour donner confiance aux femmes réalisatrices. Et aujourd'hui, Je pense que le 45e fête ce succès. Et je pense aussi que les trois années qu'on vient de traverser, qui ont été difficiles pour le cinéma notamment, je pense que ça va redistribuer les cartes différemment. On a un nouveau public. Et là, je compte vraiment sur ce nouveau public pour honorer les réalisatrices.
Ça, vous parlez de l'actualité. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup plus, en tout cas, des femmes réalisatrices. C'est un vrai sujet. Et je pense effectivement aux jeunes générations pour qui c'est important de le défendre. Comment est-ce que vous voyez les choses aujourd'hui par rapport à 45 ans plus tard? Est-ce que finalement, tout est gagné? La lutte continue?
Je pense qu'on avait ambitionné, on était très ambitieuses, Elisabeth et moi-même, de ne faire qu'une manifestation pendant 5, 6, maximum 10 ans, espérant que le milieu réagirait, que des grands festivals comme Cannes ou d'autres inviteraient des réalisatrices. Et ça ne s'est pas produit. En tout cas, la Palme d'Or, première Palme d'Or, Jeanne Campion à Cannes, c'est 1993.
Ouais,
donc c'est très tardif. Hein. Et la deuxième, c'est 30 ans plus tard, Julia Ducournau, en 2022. Donc je pense qu'il y a cette espèce de rythme lent qui fait que les réalisatrices passent parfois des années avant de pouvoir réaliser un film parce qu'elles n'ont pas les moyens de le faire. Et c'est surtout ça aujourd'hui qui manque. Autant avant, il n'y avait pas d'écoute. Elles ont réussi à un peu imposer leur thème, leur sujet et leur créativité. Autant aujourd'hui, c'est l'argent aussi qui manque. Mmh. Voilà. Donc les statistiques sont meilleures. Il y a plus de femmes réalisatrices, mais il n'y a pas l'argent qu'il faut.
Si on revient à nouveau un tout petit peu en arrière, la première année, ce n'est pas encore à Créteil. Créteil, ça arrive plus tard dans l'histoire.
Oui, c'est ça.
Comment est-ce que vous arrivez à Créteil, finalement, et quelle importance que ça a lieu là-bas? Est-ce que c'est important
Alors,
ou pas?
En fait, quand on était à Sceaux, on a travaillé 6 ans à Sceaux. On a fait un festival pendant 6 ans. Et le lieu s'est avéré trop petit par rapport à l'accueil du public. La dernière année, je crois qu'on a même loué un chapiteau sur le parking attenant aux Gémeaux à Sceaux pour accueillir le public tellement il était nombreux. Donc on s'est dit, là, il va falloir faire quelque chose. Puis ça commençait à être un petit peu difficile pour le centre d'accueillir un tel événement. Donc on a cherché avec Elisabeth, autour de Paris, des partenaires. Et on a fait le tour des maisons de la culture. Première démarche. Et c'est Créteil qui a répondu banco. Et la ville, et plus tard le département. Donc on a eu des partenaires, on va dire, institutionnels, locaux, très, très importants.
C'est un festival qui chaque année, alors cette année particulièrement, mais chaque année est très riche avec beaucoup de choses, des hommages, des rétrospectives, des rencontres, discussions, débats, et puis aussi une compétition, ce qui n'est pas forcément évident. On peut se dire finalement ça peut être juste un festival pour rendre hommage et qu'il n'y ait pas forcément une compétition. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'il y ait cet aspect compétitif?
La compétition, c'est justement les prémices dont je parlais tout à l'heure du festival, c'est-à-dire rendre confiance ou donner confiance aux jeunes réalisatrices. Dans la compétition, il y a surtout des premiers films, à presque 90%. D'ailleurs, on a un jury France Télévisions qui remet un prix à un des meilleurs premiers films. Donc c'est une section découverte, vraiment, la compétition, en long fiction, en long documentaire et en court métrage.
Et vous les sélectionnez comment, ces films?
On met presque un an à visionner des films, à croiser d'autres partenaires dans des festivals, à écouter ce qui se passe dans les marges, justement. Pas forcément dans les grosses sociétés de production, parce que, heureusement, les réalisatrices aussi peuvent avoir un succès et aller dans des grands festivals. Hein. Ça commence. Je pense notamment à Berlin, qui est un festival très ouvert, qui a pu vraiment couronner des réalisatrices. Et Venise également a beaucoup changé dans son regard.
Même ces dernières années.
Oui, ouais, parce qu'Alice Diop a eu quand même
deux
trophées, Alice Diop, et puis Diwan également. Donc, non, il y a des festivals qui bougent. Chez nous, ça bouge un petit peu plus lentement. Mais la compétition, c'est la découverte.
Mais comment vous expliquez ça d'ailleurs? C'est vrai que le Festival de Cannes semble un peu en décalage par rapport à ça. On se posait des questions de quotas aussi, comme il y en a eu à Berlin, qui sont toujours des questions délicates. Mais
moi, je ne suis pas du tout choqué par les quotas. Je pense que c'est une mesure qui permet de rattraper le temps perdu. Donc, sur une période X, il faut la déterminer. Accordons une faveur aux femmes pour qu'on voit leur cinéma. Parce que je pense que ce qui se passe dans des grands festivals, il y a peut-être un manque de diversité dans la façon de regarder les films. Je ne dis pas, ce n'est pas une accusation, mais je me pose cette question parce qu'on a, fait plusieurs fois à Créteil des tables rondes sur la critique cinématographique. Et on s'aperçoit que les critiques de certaines femmes journalistes ne sont pas tout à fait même, orientées de la même façon. Donc il y a peut-être plusieurs façons de voir les films. Et progressivement, il faut s'ouvrir à des sujets traités par les femmes ou des points de vue esthétiques qu'elles choisissent de défendre.
Vous parliez tout à l'heure, effectivement, de Sois belle et tais-toi, qui est un film particulier, qui s'inscrit aussi dans une démarche vraiment de lutte, qui est un film qui est un objet de pour porter un message dans le contexte d'un combat féministe avant d'être un objet artistique.
Mais ce qui primait à l'époque, et heureusement il y a l'image, c'était donner la parole. Ça, c'était un grand slogan des années 70-80, donner la parole aux femmes. Je pense qu'aujourd'hui, ça demeure quelque chose d'important. Mais maintenant, leur donner l'image aussi, c'est important. Leur permettre de fabriquer des images, d'où l'intitulé cette année de notre thème principal, la fabrique de l'émancipation. Parce que, comme le disait très bien Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient, donc ça se fabrique. Le genre, femme, homme, ça se fabrique. Donc voilà, on va essayer d'analyser tout ça, de mesurer ce que les femmes ont apporté dans le cinéma d'important. Je pense notamment à quelqu'un comme Chantal Akerman. Elle a été très, très essentielle dans sa démarche pour renverser un peu la hiérarchie des images. C'est-à-dire qu'en mettant Delphine Seyrig dans son film Jeanne Dielman, enfermée dans sa cuisine entre sa table, sa toile cirée et l'évier, c'est quand même pas très glamour, mais c'est Delphine Seyrig. Et tout d'un coup, le message est différent. Et quand Delphine Seyrig elle-même fait un film, le message est différent. Et il est porté. Il est porté par une conviction. Et dans le cas de Chantal Akerman, par un vrai style de cinéaste.
Oui, Jeanne Dielman qui ressort aussi prochainement en salle, qui a fait l'actualité pour avoir été le film préféré des critiques de Sight & Sound. Comment est-ce que vous voyez ça, cette reconnaissance qui arrive aujourd'hui, c'est un film qui a toujours été important, mais...
Il ne faut pas être aigri dans la vie. Il faut reconnaître que du temps a passé, que beaucoup de retard a été pris, mais que finalement, la reconnaissance vient en son temps et que les nouvelles générations vont pouvoir en profiter. Et moi, je compte beaucoup, justement, je disais tout à l'heure, un nouveau public, je compte beaucoup sur les nouvelles générations pour un peu avancer dans des manières de faire de l'image différentes. On fait d'ailleurs tout un travail, nous, toute l'année, sur le territoire de la banlieue, puisqu'on est à Créteil, dans les collèges et les lycées, et les associations, éducation à l'image, apprentissage de la lecture de l'image, parce que c'est une langue, et qu'il faut en connaître la grammaire et les subtilités, et parfois les détourner ou les comprendre dans leurs messages pas toujours honnêtes. Donc voilà, c'est un vrai travail.
Oui, vous parlez de cette histoire de génération. C'est vrai que dans les hommages de cette année, on a aussi plusieurs générations de cinéastes. D'un côté, Colin Serrault, de l'autre, Rebecca Zlotowski. Puis il y en a beaucoup d'autres. Peut-être nous parler un peu de ces hommages. Comment est-ce que ça s'est décidé? Pourquoi ces réalisatrices-là? Je crois que Colin Serrault a une histoire particulière avec le festival.
Oui, c'est vrai. Colin, elle est là depuis le début. On a suivi la naissance de ses enfants, mais surtout de ses films. Et son premier film... Mais qu'est-ce qu'elles veulent? Et passer à Créteil? À Sceaux, en 79 ou 80, je ne me souviens plus exactement, mais je pense que c'était la première ou la deuxième année. Et donc, tout de suite, on a eu le soutien de Colline. Or, Colline est vraiment la réalisatrice qui pourrait être un peu emblématique de cette bagarre. C'est-à-dire qu'elle a connu un succès public énorme avec Trois hommes et un couffin. Donc finalement, elle est reconnue, mais comme elle parle et qu'elle revendique, parfois des choses extrêmement essentielles comme l'attention à l'écologie et à l'économie de nos sociétés et à la démocratie, je crois que sa place peut déranger. Mais c'est une grande cinéaste populaire, qui a fait des comédies, qui a fait par exemple Romuald et Juliette, en mettant en scène une très très grande actrice antillaise. Donc elle n'hésite pas à aller dans des interdits, ou en tout cas dans ce qui était tabou jusqu'à présent.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Et Rebecca Zlotowski, du coup, de l'autre côté presque générationnel, enfin une jeune cinéaste qui fait des films depuis quelques années, hein, mais ouais. Pourquoi lui rendre un hommage cette année ?
Alors, c'est une invitation,
ouais,
à Rebecca. Ça veut dire que on lui... Alors, évidemment, on a admiré son travail avant, on connaît ses films. On avait envie qu'elle soit présente cette année, justement, pour être dans cette généalogie, hein, entre Agnès Jaoui, entre Van Trotta, entre Colline Serrault. Cette nouvelle génération que représente Rebecca est passionnante. Et la première, quand on a eu le premier contact avec Rebecca pour lui suggérer de nous accorder sa présence à Créteil, parce qu'il faut quand même qu'elle soit un petit peu libre, et elle a accordé de son temps. Elle est maman, hein, donc elle a aussi un petit garçon. Donc, ça, elle a double vie, mais elle est assez formidable. Et quand je l'ai rencontrée donc avec l'attachée de presse du festival, on a tout de suite parlé de son métier de scénariste, parce qu'elle est entrée à la FEMIS, comme Céline Sciamma, dans la section scénario. Mais elle est devenue réalisatrice. Et dans la section scénario, donc, elle a bien sûr travaillé ce qu'est le scénario. Et quand on a échangé, on a parlé d'une grande scénariste qui est venue à Créteil. Alors, ça fait partie des grandes personnalités disparues depuis. Suso Cecchi d'Amico, qui est une scénariste importante du cinéma italien, notamment pour ses scénarios avec Visconti, comme Le Guépard et autres. Et donc, il se trouve que nous avons, nous, depuis les débuts du passage à Créteil, entrepris de faire des leçons de cinéma filmées, enregistrées. Et quand Suso Cecchi d'Amico est venue à Créteil, alors je ne me souviens plus de l'année, je crois que c'était 2010, elle est venue, elle était déjà un petit peu âgée, mais formidablement dynamique. J'ai fait une très très belle leçon de cinéma avec elle, où elle expliquait ce que c'était que qu'être scénariste, et son rapport à Visconti. Et donc quand je lui ai dit ça à Rebecca, elle m'a dit « mais je veux qu'on s'en serve, je veux commenter cette leçon, je veux dialoguer ». Alors, Suso est disparu, mais voilà, c'est ça la généalogie.
Mmh. Effectivement, et d'autres moments forts, je sais pas, on peut pas forcément tous les citer, non. Mais qu'est-ce que vous êtes particulièrement fier sur cette édition
Je recommanderais volontiers les deux grandes intellectuelles qui vont être au festival, c'est-à-dire Michel Perrault, qui vient animer le colloque le jeudi 30 mars au matin sur la fabrique de l'émancipation, Geneviève Cellier, qui elle est critique et historienne du cinéma, Karine Saporta, qui est chorégraphe et danseuse, qui elle parlera du corps et de la révolution qu'a pu faire naître la danse contemporaine dans l'esthétique du corps féminin. Et puis le soir, on aura Annie Ernaux et Michel Porte. Et Annie Ernaux, grande écrivaine, prix Nobel, c'est quand même important pour un festival comme le nôtre. Et elle a un pied dans le cinéma, puisque non seulement ses livres continuent d'être adaptés, mais elle a même fait un film avec son fils sur des rushs de Super 8. Ça s'appelle Les années Super 8.
Les années Super 8, qui s'inscrit complètement dans son travail littéraire. Effectivement, une année pour Annie Ernaux très cinématographique, puisqu'il y a eu film d'Audrey Diwan, il y a eu un film également de, comment ça s'appelait, Passion Simple, qui a essayé d'être adapté au cinéma. Et puis, il y a encore eu un documentaire sur Sergi, dont elle avait coécrit l'histoire. Donc, effectivement, un retour au cinéma. Et donc, elle parlera de son travail littéraire, de son travail cinéma, du lien entre les deux. Et de...
Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'elle viendra à Créteil, alors de banlieue à banlieue, en fait. Il y a une communauté aussi qui sera très contente de la recevoir à Créteil. Elle sera très, très attendue. Effectivement, les habitants de Créteil vont être très, très fiers de pouvoir dire « Nous, on habite en banlieue, mais on reçoit aussi des personnalités importantes. Mmh. » Ça fait partie aussi de l'enjeu du festival, d'apporter en banlieue une manifestation prestigieuse. Prestigieuse, oui. Pas forcément parce qu'on aurait beaucoup d'argent, c'est pas le cas, hein, mais prestigieuse parce qu'on a des invités qui s'engagent. Et Agnès Jaoui, par exemple, c'est pour nous une très très belle, très, très belle présence à nos côtés.
Oui, Agnès Jaoui qui est aussi à la Cinémathèque de Toulouse, oui. Qu'elle préside, où d'ailleurs il y a eu une rétrospective Musidora,
et ben voilà.
qui fait effectivement le lien aussi avec le festival, parce que c'est vrai que c'est intéressant, aujourd'hui on redécouvre Musidora qu'on connaissait comme une grande actrice de l'époque du cinéma vamp, de Louis Feuillade, des vampires, et qu'on redécouvre aujourd'hui comme aussi une réalisatrice et une femme engagée sous plusieurs formes artistiques. Ouais. À son époque. C'est important aussi cette redécouverte de l'histoire et cette manière de comprendre l'histoire aussi à l'aune d'aujourd'hui et de ce qu'on peut en comprendre aujourd'hui.
Alors, Musidora, c'est vraiment une fascination qu'on peut avoir pour elle. Parce que non seulement elle avait du talent et elle pratiquait plusieurs arts, puisqu'elle pratiquait aussi bien le théâtre et la pantomime, la musique, que le cinéma comme réalisatrice, cinéma comme actrice aussi, chez Feuillade notamment. Là, donc, on aura une table ronde sur son travail avec les amis de Musidora, qui est une association sur Fontainebleau, je crois, et qui est donc une association extrêmement dynamique pour préserver la mémoire de Musidora. Tous ces gens-là seront présents. Il y aura également la conservatrice de la Cinémathèque de Toulouse. Et puis, on va faire une séance très particulière avec un des films de Musidora. On appelle ça une séance de cinéma augmentée. C'est-à-dire qu'à l'époque du muet, le cinéma n'était pas du tout aussi enfermé dans les salles qu'aujourd'hui. Et il y avait souvent des interférences, des chanteurs qui passaient, des joueurs de piano qui accompagnaient. Eh bien, Musidora, elle faisait ça avec ses films. C'est-à-dire qu'elle passait ses films, elle pouvait interrompre, et puis il y avait une scène de pantomime. Là, on va reconstituer ce genre de cinéma augmenté à Créteil. Donc, ça va être passionnant.
Ça, c'est quel jour ?
Ça, c'est le 29, mercredi 29.
C'est le 29, on va.
Mercredi 29, c'est la journée Musidora. Et le 30, c'est la journée Fabrique de l'émancipation avec Annie Ernaux et Michel Perrault.
On va continuer de parler de tout ça et du programme du Festival international de films de femmes de Créteil et de son histoire. Dans un instant, on va faire une petite pause musicale. On va s'écouter Anne Sylvestre. Les gens qui doutent sur Aligre FM.
J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin pas comme il faut. Ceux qui avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur. Pour n'avoir pas su dire délivrez-nous du pire et gardez le meilleur. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. S'approprier les choses, encore moins les gens. Ceux qui veulent bien être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui sans oriflamme et daltonien de l'âme ignorent les couleurs. ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui doutent mais voudraient qu'on leur foute la paix de temps en temps, et qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leurs automnes au printemps. Qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes que tous ces tristes culs, et qu'on les remercie, qu'on leur dise en leur cri merci d'avoir vécu. Merci pour la tendresse, et tant pis pour vos fesses qui ont fait ce qu'elles ont pu.
De retour sur Aligre FM 93.1 dans l'émission Vive le cinéma perspective. On est toujours avec Jackie Buette du Festival international des films de femmes de Créteil, qui aura lieu, je le rappelle, du 24 mars au 2 avril prochain. Voilà, c'est tout bientôt. On en parlait, vous me parliez justement là, hors antenne, pendant qu'on écoutait cette très belle chanson d'Anne Sylvestre. Vous me parliez d'une réalisatrice américaine qui va faire le déplacement des États-Unis, de Los Angeles, pour venir à Créteil nous présenter ses films. Lizzie Borden, qui était là depuis la première édition, c'est ça.
Alors, Lizzie Borden, c'est une réalisatrice de nos premiers temps. Mais elle était très jeune, hein, donc elle démarrait. Et elle avait fait un premier film qui s'appelle Born in Flame, que personne n'avait jamais vu. Donc, je suis allée à New York avec son adresse en poche. Et puis, je suis restée habiter chez elle. On ne se connaissait pas. J'ai vu le premier visionnement de son film sur table de montage et je me suis dit, voilà, formidable. On a trouvé une petite porte d'entrée aux États-Unis, le pays du cinéma, c'est Lizzie Borden. Et de fil en aiguille, ensuite, bien sûr, faut savoir que dans son premier film, il y avait comme actrice Catherine Bigelow, donc ce qui n'était pas banal à l'époque. Catherine Bigelow, qui n'était pas encore très connue et qui, aujourd'hui, évidemment, est une des grandes réalisatrices, on va dire, à la fois talentueuse et commercialement.
Oui, qui avait fait Des Mineurs, Détroit récemment.
Et le film sur Ben Laden, je ne sais plus comment il s'appelle.
Oui, c'était sur la traque de Ben Laden, oui,
Voilà. Et donc, Lizzie sera avec nous. Ça nous donnera l'occasion donc, de montrer un de ses premiers films que nous n'avions pas programmé, et puis son film sur la prostitution qui s'appelle Working Girls et qui est un film à l'intérieur d'une maison close.
Et qu'est-ce qu'elle fait comme type de cinéma, si on décrit un peu?
Assez expérimental, mais le Working Girl, il est plutôt narratif, pas classique, parce que c'est des portraits vraiment assez direct, hein. Elles ont un langage très, entre elles, les prostituées, très direct. Bon, elles font un métier, donc c'est cette perspective-là qui est défendue. Alors que dans le festival, on aura une autre soirée sur la prostitution, des mineurs, et là, le film vient du Canada et met en scène une jeune fille qui se fait séduire par son amoureux, lequel finalement la prostitue, mais progressivement, elle ne s'aperçoit pas de ce manège-là et elle se retrouve piégée. Donc on a ce thème qu'on va partager avec la Direction régionale des droits des femmes. C'est un thème important, la prostitution des mineurs aujourd'hui, et notamment justement par Internet, c'est vraiment un sujet dont il faut s'emparer.
Il y a beaucoup, effectivement, quand on regarde le programme du festival, que ce soit des films ou des sujets aussi de débat, très très engagé, c'est important que le festival aille dans cette direction là aussi, c'est-à-dire que c'est pas juste mettre en valeur des films de réalisatrices, mais aussi poser la question du droit des femmes, de la parité, de l'égalité, etc. De ce genre de choses, cet engagement il est important dans l'histoire du festival et aujourd'hui encore.
Oui, parce que les questions de société, de mœurs ou de soumission ou de harcèlement sont quand même au cœur de l'actualité. Regardez en France, quand on voit les statistiques des féminicides, c'est assez affligeant quand même. Je trouve qu'on ne peut pas être fier d'un pays où il y a autant de femmes tuées par leur conjoint. C'est quand même affligeant. Donc il y a un vrai problème. Il y a un problème d'éducation des garçons, peut-être, je ne sais pas. Il faut le traiter. Donc maintenant, des jeunes garçons conduisent leur jeune amoureuse vers la prostitution. Ce n'est pas possible non plus. On ne peut pas l'accepter. Donc les films qui mettent en scène ce genre de sujet ne sont pas forcément uniquement des films sur un sujet, parce que c'est aussi du cinéma. Mais le thème étant très, très d'actualité, c'est important de les montrer. En plus, c'est une jeune réalisatrice.
Qui s'appelle
Alors, attendez, je ne me souviens plus. Son nom. Elle s'appelle Geneviève Albert.
D'accord,
et elle sera présente.
Elle sera présente, ça c'est un film de fiction, c'est un documentaire
Non, c'est une fiction.
C'est une fiction.
Ah, oui. Ce sera même une avant-première parce que le film va sortir en fin avril à Paris.
D'accord.
Aligre FM 93.1.
Vous racontiez justement comment est-ce que vous avez rencontré ou cherché Lizzie Borden aux États-Unis au moment de la première édition du festival, ce travail de prospective, que justement vous le faites comment, par exemple, l'exemple de Lizzie Borden, comment est-ce que vous l'aviez repéré, comment est-ce que vous aviez connu son existence.
En fait, je pense qu'elle avait percuté la première année où le festival s'est manifesté, et elle s'est dit, tiens... on a dû récupérer ses coordonnées. Mmh. Et l'été, moi, je me suis dit, je vais aller aux États-Unis. Je n'y étais jamais allée. D'ailleurs, c'était une bonne occasion. J'ai pris en poche son adresse et j'ai fait une première nuit à l'hôtel YMCA, là, comme tout le monde. Et puis la deuxième nuit, elle m'a dit, mais viens habiter chez moi. Et voilà. Donc, le contact a été très, très, très direct, vraiment.
Oui, c'est raconte aussi l'importance de ce festival international des films de femmes.
Ouais.
La situation, elle est particulière aussi à chaque pays. Comment est-ce que vous...
On se déplace quand même au niveau de l'équipe pour aller chercher les films. On se déplace en Amérique latine, par exemple, assez souvent. Hein, au Mexique, au Brésil, en Argentine, au Chili. On se déplace dans les pays européens. Bon, là, c'est un peu plus facile, dans les pays du Nord, dans les ex-pays de l'Est. Parce qu'en fait, comme le festival a 45 ans, on a vécu toute la transformation de l'Europe. Jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, cette guerre à nos portes qui est assez dramatique. Et donc, c'est très intéressant parce que le cinéma des femmes est un cinéma qui s'intéresse à la réalité. Je pense notamment, par exemple, à quelqu'un comme Agnieszka Holland, grande réalisatrice polonaise. Bon, elle n'est pas présente cette année, mais elle a été quasiment une année sur deux présente à Créteil. Elle est formidable. Bon, elle a fait un des premiers films sur la famine créée par Staline en Ukraine, par exemple.
Oui, hein,
et après, il y a eu des documentaires qui ont été faits. Mais elle s'est attaquée à ce problème-là. Donc, les réalisatrices européennes nous ont fait vivre l'Europe en revisitant l'histoire. Je pensais aux Allemandes. Quand on a invité Von Trotta, Elma Sanders, Ulrike Oettinger, Ulla Stöckel, Jutta Bruckner, et plein d'autres, hein, je ne peux pas toutes les citer, on ne les connaissait pas en France. On connaissait les réalisateurs hommes. On connaissait Wim Wenders, on connaissait Schlendorf, on connaissait... Fassbinder, bien sûr. Mais derrière, il y avait des femmes. Et elles n'avaient pas franchi la frontière. Donc, quand elles sont venues, qu'on les a invitées, donc ça, c'est pour parler des contacts avec l'étranger, on a fait une rencontre qui s'appelait Les filles des ennemis héréditaires. Parce qu'évidemment, la France et l'Allemagne, la génération de nos parents, se sont fait la guerre. Elles venaient et elles proposaient autre chose, une autre lecture de l'histoire. C'est très, très passionnant.
Marguerite Von Trotta qui sera là, justement, cette année aussi. Oui. Et qui est aussi une cinéaste qu'on redécouvre beaucoup aujourd'hui. On connaissait plus les films de Volker Schlöndorff sur lesquels elle a participé en tant que scénariste, puisqu'elle a écrit beaucoup de films avec Volker Schlöndorff. Et c'est vrai qu'on redécouvre ces films qui sont passionnants et qui sont aussi toujours des films d'histoire, comme vous l'évoquez.
Oui, elle a choisi souvent des grandes... figure historique, héroïne, femme, comme Rosa Luxembourg ou Hannah Arendt. C'est très important.
Mais pour parler de cette dimension internationale, la place des femmes dans l'accès aux moyens de production, de la capacité de faire des films, est-ce qu'elle est partout pareille? Est-ce qu'il y a des endroits pour lesquels il y a moins de femmes réalisatrices, ou finalement on est à ce type de...
Oui, je pense qu'il y a moins de femmes réalisatrices. Par exemple, si on prend un pays comme l'Inde, qui est un grand pays de cinéma, hein, ils produisent plus de 700 films par an. Comme c'est un pays d'extrême vulnérabilité des femmes et où les droits des femmes sont absolument bannis ou pas respectés, il y a beaucoup moins de femmes réalisatrices parce qu'il y a double combat. Là, d'abord, elles essayent de survivre dans une société qui les brutalise et qui les menace. Donc, faire du cinéma. On a fait une année un hommage aux réalisatrices indiennes, c'est formidable. Mmh. Et on a finalement réussi à en faire venir pas mal. Mais bon, c'est un cinéma qu'il faut surveiller et trouver les petits chemins pour aller les chercher.
Oui, d'où cette importance aussi de travail, de prospection et de voir parfois ce qui passe en dessous des radars. Et c'est vrai qu'en particulier, quand c'est des cinéastes femmes, parfois ça passe plus en dessous des radars que quand c'est...
Par exemple, la Chine aussi s'est refermée. Nous, on a eu des années, par exemple, je me souviens en 1993, alors ça fait quelques temps déjà... c'est l'année d'ailleurs de la Palme d'Or à Cannes. Tiens, je n'avais pas repéré. On a fait venir toute une délégation de femmes cinéastes chinoises. C'était la grande époque où le cinéma était plutôt une production nationale. Aujourd'hui, ça a changé. Il y a une forme de cinéma plus privatisé. Eh bien, par contre, la fermeture du pays ne nous permet pas d'accéder vraiment directement aux réalisatrices. Mais on a quand même fait l'année dernière une section femmes chinoises. Donc, c'était passionnant.
Et c'est vrai que beaucoup de ces films dont on citait sont des films qui sont engagés, qui sont souvent sur des questions de féminisme, mais pas forcément. Je pense qu'on peut être une femme réalisatrice et pas faire de films nécessairement engagés. D'où ma question, qui est peut-être une question un peu tarte à la crème, mais... Être un film réalisé par une femme, est-il forcément un film féministe ou pas?
Le féminisme, il n'est pas réservé aux femmes. Hein. Les hommes pourraient aussi se revendiquer du féminisme s'ils mesuraient, il y en a qui le font, que c'est très important, et pour les hommes et pour les femmes, que le féminisme apporte cette égalité. Voilà. Donc c'est vrai que On est encore mal... Le terme est encore mal perçu. Et les femmes qui font du cinéma n'ont pas forcément un discours féministe. Le féminisme, c'est pas forcément un discours politique. Y a une forme de discours politique qui revendique évidemment les droits. Ça, c'est normal. Mais c'est pas une idéologie, le féminisme. C'est vraiment une analyse fine des inégalités.
Oui.
Donc, c'est plus du côté de la sociologie et des identités. Donc, quand les femmes font des films sur la complexité d'un individu, de son identité, je trouve qu'elles sont déjà dans cette mouvance du féminisme. C'est un mouvement, le féminisme. C'est pas une idéologie, c'est pas une ligne droite.
Ouais.
Voilà. Et donc, ce mouvement... Moi, je dis souvent que le cinéma des femmes est un cinéma en mouvement, justement, comme le mouvement des femmes. C'est-à-dire, ça bouge. Regardez ce qui se passe en Iran. C'est formidable. Et en même temps, c'est tragique. Elles ont osé se lever et protester. Et la répression est terrible. On aura l'occasion, d'ailleurs, de faire une soirée de soutien au peuple iranien, aux femmes, bien sûr, et aux hommes qui les soutiennent, pour que cette société ne se permette pas d'assassiner comme ça sa jeunesse.
Oui, puis chaque parcours, je pense, de femmes réalisatrices, en particulier quand on regarde dans le passé, est souvent un parcours de combat, de lutte, ne serait-ce que pour pouvoir finalement réaliser un film, pour pouvoir exister en tant que, ouais, en tant que réalisatrice. C'est vrai que toutes ces histoires qu'on commence, comme je le disais tout à l'heure, à redécouvrir de Musidora jusqu'à des réalisatrices plus récentes, mais qu'on avait bizarrement oubliées, on se rend compte qu'effectivement que que ça a été longtemps compliqué d'exister. Ouais. C'est intéressant de se regarder ce parcours-là aussi.
Par exemple, cette année, on a choisi de continuer à proposer des films sur la plateforme qui est notre partenaire Festivalscope. On avait entamé cette démarche en 2021 quand on a de nouveau annulé pour la deuxième année le festival. Oui. Festival Scope est une plateforme professionnelle absolument formidable et très ouverte. C'est pas Netflix, hein, ça n'a rien à voir. C'est pas une plateforme qui vend du programme comme ça à longueur, mais qui abrite des projets professionnels. Alors c'est payant, bien sûr, hein. Et donc cette année, on a choisi de montrer, après le festival, donc de jouer un peu les prolongations et de montrer 10 films de réalisatrices emblématiques. On a choisi un film de Ida Lupino. Mmh. Ida Lupino, grande comédienne américaine, grande actrice, productrice aussi de télévision et cinéaste. Et on a choisi de montrer Outrage, un film sur le harcèlement et le viol. Mais ça, ça date des années 50. Donc c'est forcément un sujet qui est troublant de remontrer, mais en même temps, c'est un drame pour les femmes, parce que ça n'arrête pas, cette menace-là. Donc je ne vois pas pourquoi les femmes s'empêcheraient d'en parler, puisque c'est leur urgence. Et le film est magnifique, hein. Très très beau film, noir et blanc, magnifique. Donc vous pourrez le voir sur la plateforme, celui-là.
Sur la plateforme Festival Scope.
Oui, oui.
Très bien.
Tout est indiqué sur le site du festival.
Non, il faut regarder ça pour pouvoir effectivement voir ça en complément du coup des nombreuses projections et événements qui ont lieu à Créteil.
Si vous avez profité du festival pendant les 10 jours, après tout le mois d'avril, vous avez 10 films à découvrir sur la plateforme. C'est une forme de prolongation. Et en plus, il y a des gens qui ne peuvent plus se déplacer. Parce qu'il y a des gens qui ont quitté Paris, par exemple, après les 3 années difficiles. Là. Alors, je leur ai dit, ben voilà, cette année, on a pensé à vous. Vous avez 10 films que vous pourrez regarder chez vous.
Et le public de Créteil, c'est des habitués du festival, des gens de Créteil, des gens qui viennent d'ailleurs, des cinéphiles.
Oui, il y a une très bonne représentation des gens de Créteil, parce que ce travail qu'on fait toute l'année dans les associations... on sollicite aussi d'ailleurs des partenaires locaux. Par exemple, il y a une grande agence immobilière à Créteil qui s'appelle Valoffice. On les sollicite pour soutenir nos projets parce qu'on a des ateliers d'écriture de scénarios avec les habitants de Créteil. Là, cette fois, ce sont les adultes qui s'inscrivent. C'est gratuit pour eux. Ils s'inscrivent et ils écrivent pendant une dizaine d'ateliers. Ils apprennent à écrire un scénario. Ensuite, pendant le festival, le scénario... avant le festival, les scénarios vont être lus. Un jury va en choisir un. Et pendant le festival, le scénario sera lu en public par des comédiens et des comédiennes. Donc, mis un peu en scène. Après, il faut trouver un peu l'argent pour faire le tournage. Donc ça, c'est quelque chose de réservé aux habitants de Créteil.
C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de mouvements qui se sont développés en faveur de... Des femmes cinéastes, mais aussi de la parité dans les équipes de tournage, de réalisation, avec des dispositifs même concrets, on parlait de quotas tout à l'heure, qui ont été mis en place à force de lobbying de la part de ces associations comme le collectif 50-50, par exemple. Vous, au niveau de la programmation, donc en étape du coup après, est-ce que vous voyez aujourd'hui les résultats? Est-ce que concrètement, il y a plus de femmes, de films, de femmes réalisatrices qu'on vous propose?
Oui, il y en a plus, oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y en a plus, malheureusement. Il n'y a pas forcément plus de femmes qui font carrière. C'est ça le problème. C'est-à-dire, il faut durer dans une profession. Si on veut vraiment développer son esthétique, sa manière de faire des films, trouver des thèmes proches de ce qui est très, très important dans l'actualité. Si on fait un film et un deuxième et puis pas d'autres films, c'est dommage, quoi. Ouais. Et malheureusement, il y a eu beaucoup, beaucoup de femmes réalisatrices qui ont abandonné le métier. Je pense notamment, par exemple, à Aline Sermann, que j'aimais beaucoup, qui avait fait deux grands films. Bon, je sais qu'à force de se bagarrer, quoi, c'est fatigant. Hein. C'est déprimant. Elle a un peu laissé tomber. Mais je sais qu'il y a un film qui va ressortir, là. Donc, on essaiera de faire un effort de suivre cette reprise. Parce que le souci, quand je dis les femmes ne font pas forcément carrière, c'est, deuxième souci, c'est la conservation des films ou la restauration des films ou la numérisation des films. Alors, en général, c'est au producteur de demander au CNC de restaurer un film. Il faut y penser, mais les femmes réalisatrices, si on ne les voit plus sur les écrans, c'est parfois parce que leur copie n'existe plus en DCP, enfin, je veux dire en numérique, puisqu'il y a plus de 35 dans les salles.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Là, récemment, on a redécouvert, sorti en salle par la Traverse, un petit cas de conscience de Marie-Claude Treilloux, qui avait réalisé aussi Simone Barbès, et La Vertu, qui sont des films, vraiment, pour ceux qui n'ont pas vu, j'en ai déjà parlé dans l'émission précédente, mais je vous encourage vivement à voir Un petit cas de conscience, qui est un film extraordinaire, et quand on le découvre aujourd'hui, on se demande mais comment ça se fait qu'on n'a pas plus entendu parler de Marie-Claude Treilloux, et comment ça se fait que Marie-Claude Treilloux, aujourd'hui, a encore du mal à faire financer ses films et aujourd'hui, alors qu'on parle justement que c'est important qu'il y ait des femmes réalisatrices, etc.
Alors les femmes, peut-être, ont moins bénéficié de formes de lobbying. Les garçons se débrouillent mieux à ce niveau-là, je crois.
Ah oui, vous pensez.
Ils sont plus dans les affaires, je ne sais pas.
Oui, il y a le cinéma aussi de Zane Palsy, là, qui a eu un Oscar d'honneur.
Elle bagarre pour faire ses films et elle veut rien changer de ses scénarios. Et donc, ça passe pas toujours.
Oui, ça montre encore qu'il y a malgré tout du travail pour faire parler encore de ces réalisatrices. Et c'est vrai, quand on regarde votre programme, il y a à la fois des choses qui sont, je pense, très connues, enfin en tout cas du public cinéphile, qui sont assez connues, et puis il y a des choses qui sont un peu moins connues ou qu'on va plus découvrir. Et ça, c'est le travail, j'imagine, de la programmation, c'est trouver le bon équilibre.
Comme la fameuse réalisatrice de Haïti,
oui.
Myriam Charles, qu'on va découvrir complètement en France. C'est la première fois que ses films sont montrés. Alors là, c'est vraiment une première française, voire, non pas internationale, je crois pas, mais une première française. Et elle fait partie d'une section, donc elle, on lui consacre une rétrospective complète, et elle fait partie d'une section qui s'appelle « Elles font genre ». Voilà, la fameuse section où on a des films de science-fiction, des films fantastiques, écrit et réalisé par des femmes.
Oui, d'où le terme de genre. Des films de genre.
Films de genre.
Il y a une autre chose dont on n'a pas forcément parlé. Il y a beaucoup de choses, mais c'est vrai qu'on a évoqué différentes choses.
Oh là là, oui,
on a un peu décousu, mais on a certainement...
Voilà. Alors, il y aura bien sûr des signatures de livres aussi, puisqu'on a des femmes écrivaines, pardon. Donc voilà, on aura des signatures d'Annie Ernaux, on aura des signatures de Michel Perrault, qui est historienne et qui a sorti un livre. On aura des signatures de plusieurs féministes qui seront présentes à Créteil, comme Florence Moreno et Monique Dantal. Donc voilà, on donne rendez-vous aussi aux femmes qui écrivent pour les mettre d'abord en relation avec leur public. Et puis aussi avec des réalisatrices qui pourraient avoir envie d'adapter leurs livres. Ça paraît assez intéressant.
Et comment est-ce que vous voyez l'avenir? Est-ce que vous imaginez que dans 45 ans, on continuera à fêter les
je sais pas,
90
parce que
ans du Festival du Film Femme ou finalement, il faut arriver à une... Si on arrive, parce que la question aussi, c'est si on arrive à une parité parfaite, ça n'a plus de sens de faire un festival de films de femmes. Enfin, je ne sais pas,
je pose la question. Mais au début, comme je le disais, Pierre... Au début, on n'avait pas du tout envisagé de durer 45 ans. C'était exclu totalement. Donc, c'est plutôt par amour du cinéma qu'on a continué, et puis par intérêt, parce qu'on a eu vraiment beaucoup, beaucoup de plaisir à découvrir ces réalisatrices. On n'a vraiment pas... on ne s'est pas ennuyé, quoi. On a foncé, foncé, foncé. Maintenant, l'avenir, c'est la globalité de la question sur le cinéma. Comment le cinéma... va continuer à vivre dans les salles ou pas? Est-ce que les plateformes vont être désormais le seul endroit où on pourra voir et découvrir des films? Est-ce que quelque chose va se passer de différent avec le numérique et quoi? Bon, ça va.
Mais vous programmez pas de films de plateforme? Parce que vous parlez de Jeanne Campion, par exemple, qui a fait un film pour Netflix, The Power of the Dog. Il y a des films de réalisatrices sur
Ah oui, sur les plateformes. Par exemple, Agnieszka Holland fait des séries. Moi, j'aime beaucoup Agnieszka. Moi, je ne renie pas du tout les réalisatrices qui travaillent avec les plateformes, si elles ont trouvé les moyens pour faire leurs films. Ce que je revendique, c'est ce genre de rassemblement. Parce qu'un festival, c'est un lieu de pensée, un lieu de parole, un lieu d'échange. Ça, c'est comme une agora. Si on supprime toutes les places publiques, tous les lieux où les gens peuvent se parler et échanger, ça, je crois que c'est là, la société va mal. Mm-hmm. Donc, les festivals, pour moi, c'est une énorme dynamique d'échange, quoi. C'est fondamental. Bonsoir. Ça, je pense que ça a quand même beaucoup, beaucoup de beaux jours devant nous.
Bah oui, on espère, en tout cas on a envie que ça, ouais, que ça continue, ouais. Et dans tous les cas on se voit du coup cette semaine, en fin de semaine à Créteil. Donc du 24 mars au 2 avril, le Festival International des Films de Femmes. Merci beaucoup Jacques Hubuette d'être venu nous voir à Aligre FM, et on se quitte en musique, The Other Girls de Vivian Girls.
Et merci à vous.
I'm not afraid to die.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.